Bonsoir à tous et à toutes, effectivement. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats, mais aussi les faits sportifs marquants. Nos consultants sont déjà en ligne, me dit Michel Joseph, qui réalise cette émission. J'ai salué Élisée Nkpatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Ok, Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et nous retrouvons ici aux États-Unis dans l'Ohio, Amdine Si. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci. Dans ce numéro de Sporama du lundi 22 avril 2024, eh bien, le Maroc qui remporte sa CAN Futsal à domicile, les matchs allés des demi-finales des compétitions africaines. Bien évidemment, on parlera du Classico remporté par le Real Madrid devant le FC Barcelone, c'est en Liga. Et on va finir avec du basketball, avec la Basketball Africa League, dont les matchs de la conférence du Nil se poursuivent en Égypte. En tout cas, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. La CAN de futsal, pour commencer, disputée au Maroc, elle a désigné son vainqueur et ses représentants au prochain mondial de la discipline en Ouzbékistan, prévu du 14 septembre au 6 octobre prochain. Amine Birouk, le pays hôte conserve son trophée et réussit le triplé.
Un triplé historique et puis je pense que c'était l'histoire d'un sacre annoncé. Autant l'équipe du Maroc survole la discipline depuis de nombreuses années, autant elle a atteint un niveau jamais atteint par n'importe quelle équipe africaine. D'ailleurs, avant le début de la compétition, les entraîneurs des autres équipes, les autres sélectionneurs, avaient pour objectif minimal passer en demi-finale et aspirer une qualification à la Coupe du Monde. Donc le Maroc a dominé la compétition, on l'a vu, avec 32 buts marqués, 6 buts concédés et des écarts dépassant 3 buts de différence. C'était lors du match d'ouverture face à la sélection angolaise que les Marocains ont retrouvé en finale. Et sur cette finale, l'Angola posait quelques problèmes à cette équipe du Maroc puisqu'à 13 minutes de la fin de la première période, le score était de 1 but partout. Les Marocains ont dû alors recourir à une tactique qu'ils n'avaient jamais utilisée auparavant et qu'ils avaient travaillé en secret. C'est ce qu'on appelle utiliser le gardien volant ou le power play, c'est-à-dire substituer un gardien de but par un joueur de champ qui utiliserait le chasuble des gardiens de but, mais qui pourrait monter à l'attaque pour prêter main forte à ses coéquipiers, ainsi bénéficier de la supériorité numérique. Et c'est avec ce stratagème que les Marocains ont pu marquer 2 buts coup sur coup, ce qui leur a permis d'atteindre la mi-temps avec un écart de 3-1, une victoire 3-1, qu'ils ont conforté par la suite lors de la deuxième période du match. Victoire 5-1 face à une sélection angolaise en très gros progrès qui se qualifie après avoir éliminé l'Égypte en demi-finale 7-3. L'Égypte qui devait accrocher le troisième strapontin pour cette Coupe du Monde en Ouzbékistan. Face à la Libye, les Pharaons ont mené 2-0, mais ils ont été rejoints par de courageux joueurs libyens qui ont finalement obtenu leur qualification au tir au but. L'Afrique donc bénéficiera de 3 représentants. Le Maroc, qui était déjà quart de finaliste lors de l'édition disputée en Lituanie, et qui dispute une moyenne de 20 rencontres amicales par an, avec des victoires contre l'Argentine, contre le Brésil, des matchs de très haut niveau face au Portugal. L'Angola, en très gros progrès. La Libye, qui travaille très bien et qui semble retrouver le rang qu'elle avait atteint en 2008. Et puis la grosse déception, c'est l'Égypte. Mention bien pour la Mauritanie, qui a réussi à livrer de très belles rencontres et qui est en très gros progrès et qui a failli se qualifier pour les demi-finales. En revanche, de gros points d'interrogation sur l'écart qui sépare par exemple les 4 premiers d'Afrique avec des sélections telles que le Ghana, la Zambie ou la Namibie qui ont fait uniquement de la figuration arbre.
Alors, Élisée Nkpatine, maintenant que les 3 représentants du continent sont connus pour le prochain mondial, il faudra faire bonne figure. Il va aller au-delà, bien sûr.
Bien évidemment, Yacouba, puisque depuis un bon moment, lors du dernier mondial, eh bien, c'est seul le Maroc qui s'est illustré un tout petit peu, sinon pour le reste, ce n'est pas encore le niveau. Mais pour cette fois-ci, le Maroc qui vient de remporter un 3e trophée d'affilée, vous imaginez, c'est quand même chose rare quand on parle de cette discipline, ou notamment le football en général. Donc vous voyez, donc c'est un exploit, donc il faudra maintenant essayer de mettre tout ça là à profit, accompagné, surtout que l'Angola aussi, contre toute attente, a battu l'Égypte en demi-finale et que la Libye aussi est venue mettre hors de course l'Égypte, même si c'est au tir au but, il faudra bien se préparer afin de s'illustrer du côté de l'Ouzbékistan.
Voilà, il faudra donc bien se préparer si vous venez de nous rejoindre. Vous suivez bien Sporama sur Géo-Afrique. Nous marquons une courte pause, juste quelques secondes et on se retrouve juste après. Football toujours, mais cette fois-ci sur le gazon avec les demi-finales allées des compétitions interclubs africaines. C'est chaud en Coupe CAF. Polémique concernant le maillot du club marocain de la Renaissance sportive de Berkane lors du match qui devait opposer justement la RS Berkane à l'USM Alger. Les autorités algériennes ont refusé d'autoriser le maillot habituel de Berkane avec une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. La décision de la CAF est attendue. On se table sur les faits. Alors Amine Birouk, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé?
Ce qui s'est réellement passé, c'est que la Renaissance sportive de Berkane a présenté en début de saison un jeu de maillot avec trois couleurs, orange, blanche et noire, avec la carte du Maroc incluant le Sahara marocain. Ce maillot a été homologué par la CAF et c'est avec ce maillot que l'ARSP a disputé ses matchs de phase de groupe, y compris en Afrique du Sud qui conteste la marocanité du Sahara. Il se trouve qu'il y avait donc ce match contre l'USM Alger avec la manche allée Alger. Le matériel est arrivé sur place à l'aéroport Wadi Boumediene d'Alger. Il a été saisi par les autorités algériennes qui ont empêché ce matériel de sortir. Les joueurs, par solidarité avec le chargé de matériel, se sont retranchés à l'aéroport et après de nombreuses heures de palabres, de vexations, 10 euros, je dirais, les joueurs et le staff technique, le staff administratif, suite à la promesse de la CAF de libérer le matériel, ont pu se rendre à leur hôtel. Il y a eu la réunion technique, où il y a eu déjà intrusion de personnes étrangères à cette réunion de la part des autorités algériennes. Cette réunion a eu lieu après la décision de la commission interclub de la CAF qui a donné raison à Berkane. La Fédération algérienne de football interjeté appel et l'appel est arrivé en milieu d'après-midi hier, donnant une nouvelle fois raison à la RSP qui devait jouer avec ce maillot homologué par la CAF. C'est sur cette base que la RSB s'est rendue au stade du 5 juillet Alger. Or, il se trouve que l'USMA, la Fédération algérienne, ont fabriqué un nouveau jeu de maillot couleur de Berkane, substituant la carte du Maroc par le drapeau marocain. Il y a, je dirais, trois éléments à prendre en considération dans cette affaire. Tout d'abord, Berkane, dans son droit sur le plan commercial et sur le plan sportif, soutenue par la CAF. Elle peut être lésée sur le plan commercial. Et puis aujourd'hui, il y a un troisième élément, c'est que le match n'a pas eu lieu. Les arbitres ne sont pas montés sur le terrain, la RSB n'est pas montée sur le terrain, la CAF a fait un communiqué. Donc, il n'y a pas de forfait de la RSB, il n'y a pas de victoire sur tapis vert de l'USMA. Il va falloir maintenant que la CAF tranche au niveau de sa commission de discipline pour déterminer comment va avoir lieu ce match. Et dans quelles conditions il va avoir lieu, sachant que les deux parties sont droits dans leur boîte. Les Algériens refusent de jouer contre une équipe qui porterait ce maillot et Berkane, déterminé et conforté par la décision de la CAF, ne veut jouer qu'avec ce maillot. Il y a un match retour aussi. Alors déjà, la couleur a été annoncée. En cas de déplacement à Berkane, l'USMA refuserait d'affronter un adversaire avec ce maillot et cette carte. Donc la patate chaude est à la CAF, les textes ne sont pas suffisamment clairs, ils ne traitent pas de ce genre de situation, et il va falloir que la commission de discipline puisse trancher de manière claire et nette, sans ambiguïté, sans chercher des décisions salomoniques, parce que les deux parties campent sur leur position. Est-ce que la CAF va faire perdre l'USMA? C'est une éventualité qui se pose, et ce serait un précédent juridique. Je rappelle que la décision de la commission d'appel n'est susceptible d'aucun recours, sauf devant le TAS, dans les 10 jours qui suivent la décision de la commission d'appel qui a été rendue hier.
Et justement, on a vu ce communiqué de la CAF qui appelait bien sûr la partie qui se sentirait pas du tout contente donc de faire appel devant le tribunal arbitral du sport dans les 10 jours qui suivent. Alors, Amdine Sy, quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé du côté d'Alger?
Tu sais, Yacouba, c'est inexplicable ce qui se passe avec l'Algérie et le Maroc. Et comme on dit, un problème, quand il est bien posé, c'est à moitié résolu. Il faut résoudre ce problème. Un problème, on le résout, on ne le déplace pas. Et la CAF a été incapable de régler ce problème qui s'est passé lors du CHAN. Ce que les Algériens font, ce n'est pas du tout normal. Ils n'ont pas, les autorités algériennes n'ont pas à choisir ou à donner un maillot aux Marocains. La CAF a accepté que les Marocains jouent avec ce maillot et ce n'est pas la première fois. Ils l'ont joué durant les phases de poule et les quarts de finale. Où est le problème? Il faut sanctionner les Algériens. Il faut qu'ils perdent ce match. Sinon, ça va créer un autre problème. Quand il y a un problème, il faut trancher. Il ne faut pas pourquoi se déplacer ce problème. Si on le déplace, on va encore avoir un autre problème. Et il y a la CAN qui arrive et la CAN sera organisée par le Maroc. Tu imagines ce qui peut se passer? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les Marocains doivent, les Algériens doivent perdre ce match par pénalité et on continue la compétition. Moi, je pense que c'est cela seulement qui peut régler définitivement le problème entre le Maroc et l'Algérie. Yacouba.
Voilà qui est clair. Donc, alors, Jules, une fois de plus, c'est le politique qui s'invite dans le foot et c'est vraiment dommage.
C'est vraiment dommage et surtout réellement pratiquement au même endroit. Parce qu'il faut savoir appeler chien, chien et chat, chat. Même au plus dur de la guerre froide, le sport a complètement été considéré comme un terrain de rencontre et qui restait en dehors des considérations politiques. Alors là, on ne comprend pas pourquoi, au niveau africain, il y a toujours ce problème qui se pose entre le Maroc et l'Algérie, surtout avec comme terrain de compétition l'Afrique. Les subsahariennes commencent à se poser des questions parce que quand il s'agit des terrains, disons que les plus importants, que sont les Jeux olympiques, les Coupes du Monde, les compétitions internationales méditerranéennes, et en fait, là-bas, on n'entend jamais parler de ce genre de problème. C'est comme si c'était juste pour jeter la patate chaude en direction de la CAF. Et la CAF n'en a pas besoin. Et le football fait partie des leviers que les Africains ont trouvés pour pouvoir sortir ou alors accélérer leur marche vers le développement. Donc il faudrait cesser avec ça. Et on pourrait aussi se demander si le RSB Berkane, qui a perdu en quelque sorte de sa superbe depuis 3 ans, et au vu même de la qualification laborieuse face à Abou Salim, et n'est pas en fait l'acteur principal de tout ce théâtre-là qui peut faire et qui pousse en fait les Algériens qui sont si sensibles vers la faute. Donc ce n'est pas tellement la faute qui nous intéresse, c'est le climat qu'il faut restaurer et il faut que l'Afrique soit libérée de ce genre de tensions dont elle n'a pas besoin.
Voilà, en tout cas nous aussi on n'en a pas besoin et on va tout de suite parler de ce qui s'est passé du côté du Caire entre Dreams FC d'Accra et le Zamalek Élysée. Le Zamalek a été tenu en échec à domicile 0-0.
Oui, puisque les Ghanéens ont été costauds, ils étaient costauds défensivement, et auraient pu même marquer, puisque 2 fois, les attaquants se sont retrouvés nez à nez face aux gardiens de but égyptiens, sans pour autant mettre le ballon au fond des filets. C'est vrai qu'il leur a manqué un peu d'expérience. Les Égyptiens ont forcé, et pouvaient marquer, mais c'était sans compter sur la détermination du gardien de but et Ghanéen qui était dans ses beaux jours. Maintenant, reste à bien comptabiliser tout ceci au match retour, puisque c'est vrai que c'est un nul sans but, 0-0, et c'est un nul qu'il faut faire beaucoup attention, puisque en cas de nul, un but partout au match retour, et bien les Égyptiens passent, puisque la règle du but marqué à l'extérieur existe toujours en Afrique. Donc les Ghanéens doivent se méfier de ces Égyptiens qui savent voyager et qui sont quand même favoris pour le titre final, même si le tenant du titre est toujours en course. Les Égyptiens ont plus d'expérience, donc les Ghanéens n'ont qu'à se méfier afin de bien négocier ce match retour prévu dimanche prochain.
On attend ce match retour avec impatience. Vous suivez toujours Sporama sur VOA Afrique. Quelques secondes d'arrêt et on revient tout de suite.
Mmh.
demi-finale allait aussi en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe a concédé le nul à domicile à Lubumbashi face au tenant du titre à la Ligue du Quai, 0-0. Jules, c'est un scénario similaire hein, pour les Égyptiens en tout cas, pour les Congolais par rapport à ce qui s'est passé au quart de finale.
Bien sûr, les Congolais se retrouvent dans la même situation, et, sauf que au niveau du jeu de la production footballistique, ils ont marqué un progrès très net. Si la bonne opération statistique est à l'avantage de Al Ahly, mais les Congolais ont pratiquement dominé le match du début à la fin, et les Égyptiens ont eu en quelque sorte du mal à arrêter toutes ces vagues d'attaque. 16 tentatives au total, une possession permanente de 63% contre 37% et des occasions de but à l'appel. Et finalement, si Mazembe n'a pas pris de l'avance au Maroc, c'est parce que le groupe est jeune, manque d'expérience et qu'il était privé aussi de son capitaine habituel, Kevin Mondeko. Mais le score vient de 0-0, comme tu l'as dit, et Yakuba, n'est pas une si mauvaise affaire, puisque le scénario de Luanda peut toujours se produire. On se rend compte, par exemple, au cas où Mazembe vient à marquer un but, les Égyptiens devront en marquer 3 chez eux pour renverser la vapeur. Donc, rien n'est joué.
On rappelle donc que la règle du but marqué à l'extérieur continue de régner sur le continent africain. Alors Amdine, il faudra tout de même beaucoup hein, au tout-puissant Mazembe pour s'imposer au Caire face aux champions en titre.
Ah oui. Les Corbeaux sont en quête d'exploit, il faut le dire, puisque concéder le nul 0-0 face à Al Ahly, le tenant du titre, bon, c'est pas un bon résultat, puisque on sait que les Égyptiens sont très très expérimentés. Quand ils le savent, ils savent négocier ces matchs. D'ailleurs, pour ce 0-0, ils ont appliqué ce qu'on appelle dans le sport de haut niveau. Quand on ne peut pas gagner un match, il faut au moins savoir ne pas le perdre. Et les Égyptiens l'ont fait à merveille. Ils ont été dominés, bousculés, ballottés, mais ils ont tenu pour avoir ce résultat. Maintenant, on va voir, puisque Mazembe a déjà réussi l'exploit face aux Angolais en allant décrocher la qualification à l'extérieur, mais Al Ahly n'est pas Petro Luanda aussi, il faut le dire, mais comme l'a dit mon compatriote et entraîneur des Corbeaux de Lubumbashi, Lamine Diaye, il espère qu'il va aller décrocher la qualification au Caire, wait and see, comme disent les Anglais. Yakuba.
Bien évidemment, en attendant, l'Espérance de Tunis, elle a pris une petite avance sur les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Victoire 1-0 au match aller. Élisée, c'est pas presque à mi-chemin quand même.
Oui, mais c'est une victoire importante, hein, il faut le dire, Yakuba, puisque pour des matchs pareils, il faut toujours faire la différence au match aller. Vous allez voir, au match retour, ça va être très, très difficile. Encore que nous avons vu les Sud-Africains se qualifier difficilement contre les Tanzaniens de Young Africans. C'est comme si cette formation est en baisse de régime actuellement. Donc, l'espérance à faire le plus difficile, c'est vrai, on pourra le dire comme ça, grâce à ces deux Brésiliens, un Brésilien passeur, l'autre Brésilien buteur, donc il faudra maintenant rester combatif, il faut être très costaud défensivement afin de se regarder ce petit avantage, c'est petit, mais ça peut compter après le coup de sifflet final de l'arbitre samedi prochain.
Sans transition, un mot sur le Classico espagnol. Le Real Madrid s'est imposé devant son grand rival du FC Barcelone 3-2 au Santiago Bernabéu. Amine, une fois de plus, héros du match aller, l'anglais Jude Bellingham a permis au Real de se rapprocher surtout d'un 36e titre de champion d'Espagne.
Oui, ça semble sentir bon du côté de la capitale espagnole, mais il y a eu beaucoup de polémiques. Il faut rappeler que des supporters du Barça, des dirigeants du Barça contestent deux faits de jeu marquants. Le pénalty provoqué par Lucas Vázquez, il semble que la VAR ait donné raison aux joueurs du Real Madrid, mais n'est pas si évident que ça. Et puis ce ballon de Lamine Yamal qui aurait été repoussé derrière la ligne par le gardien du Real Madrid, Lunin. Est-ce que le ballon a franchi complètement cette ligne? Le fait qu'on n'utilise pas en Espagne la goal line technologie parce qu'elle coûte très cher a fait qu'aujourd'hui on est dans une action très tangente et le président du Barça réclamerait même que le match soit rejoué. Mais Vous savez que la décision a été faite sur le terrain et que ce but de Jude Bellingham montre à quel point cette semaine du Real a été idéale. Le Real résilient, le Real courageux et le Real qui peut partir sur une saison faste. Il a déjà remporté la Supercoupe. Il pourrait faire coup double avec éventuellement le titre qui lui tend les mains. Il reste 6 journées et le Real a 11 points d'écart. Et puis cette demi-finale de Champions League qui s'annonce dans quelques jours avec une double confrontation, un classique du football européen face au Bayern Munich.
Balle au panier avec la Basketball Africa League qui bat son plein au Caire en Égypte. Les rencontres de la conférence du Nil se poursuivent à la salle Assam dans Mostafa du Caire. Deux matchs au programme ce lundi. Les Ougandais de City Oilers étaient aux prises avec les Libyens d'Al-Ali Benghazi. Ces derniers l'ont emporté 77-61. Amdinsi, cette équipe libyenne novice dans cette compétition, compte maintenant 2 victoires en 3 sorties, déjà pas mal.
Ah oui, ils sont en train quand même de faire un bon tournant. C'est vrai qu'ils ont concédé une défaite face à Al-Ahli du Caire, c'est l'équipe du pays hôte, mais les Libyens ont montré qu'ils sont là et qu'ils sont là pour décrocher la qualification. Vous l'avez dit aujourd'hui, ils se sont imposés de fort belle manière face à City Oil, 62-68. Une victoire grâce à un Souleymane Diabaté des grands jours. Souleymane Diabaté qui a joué 37 minutes et il a marqué 15 points. Il a frôlé le triple double puisqu'il a mis 15 points. Il a mis 11 assists et 9 rebonds. Donc, il a, avec un rebond, il devrait faire quand même un triple double sur Souleymane Diabaté des grands jours. Donc, cette équipe de Al-Ahli de la Libye est bien partie quand même pour. Non seulement titiller Al-Ahli du Caire, hein, mais pour décrocher quand même cette qualification, puisqu'ils ont déjà 2 victoires et une défaite seulement, et c'était face à Al-Ahli d'Égypte, Yacouba.
Dans le second match de ce jour, le champion à titre Al-Ahli du Caire, fort de ses 2 succès, fait face présentement au centrafricain du Bangui Sporting Club. Jules, la République centrafricaine qui a gagné sa première victoire un samedi face à City Oilers justement, et qui avait perdu son premier match devant les Libyens, semble retrouver sa discipline préférée sur le continent.
C'est le cas de le dire et c'est vraiment pour le plaisir des vétérans qui se souviennent encore des facéties dans le sens positif que faisaient les basketteurs centrafricains sur le parquet et donc et voir ainsi une équipe centrafricaine revenir à ce niveau de la compétition et se présenter comme un outsider et respectable et n'est que un bonus supplémentaire, c'est une bonne chose.
Alors, Élisée Mpatine, les Égyptiens d'Al-Ahli Amdine le disaient, semblent être partis de bon pied en tout cas pour défendre leur titre de champion.
Bien évidemment, et ils sont en train de montrer clairement et avec ces victoires enchaînées, ils dominent largement cette conférence du Nil face aux Libyens d'Ali Benghazi. L'entame de la rencontre était très difficile, hein, ils étaient menés au point, mais après le second quart-temps, eh bien, on les a vus clairement afficher leur grande forme, ils ont montré leur supériorité hein, pour finalement l'emporter, vous imaginez. Donc, c'est quand même une machine hein, qui sait quand même gérer son adversaire. Le plus difficile, ça reste la phase finale qui aura lieu à Kigali. Mais une chose est claire, ils sont tenants du titre et on les verra sûrement aller défendre vaillamment ce titre-là du côté de Kigali au Rwanda.
Écoutez, ces rencontres, disons, des playoffs prévues à Kigali au Rwanda auront lieu du 24 mai au 1er juillet prochain. Mais bien avant, après, bien sûr, les matchs de cette conférence du Nil qui prennent fin le 27 avril, eh bien, il y aura les rencontres de la conférence du Sahara du côté de la Dakar Arena. C'est bien évidemment au Sénégal. En tout cas, vous pouvez suivre ces rencontres de la Basketball Africa League à la radio sur les antennes de la VOA, partenaire de cette balle depuis sa toute première édition en 2021. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatine, Jules Valentin Ngoué, Amine Birouk et Amdine Sy. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.